各位收听的是
英国的 Radio France International，
Accent du monde， Philippe Le Caplain。
Bonsoir, bienvenue dans Accent du Monde et bonne année à tous. Toutes les semaines, les rédactions de RFI continueront d'accompagner l'actualité du monde avec des regards croisés, toujours pertinents et enrichissants. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Nina Wang. Pour un point sur les relations entre la Chine et Taïwan, Alireza Manfazadeh, de la rédaction persane. À propos de la réaction de l'Iran à l'annonce du retrait des troupes américaines de Syrie. Et puis Miguel Martins de la rédaction Lusophone.
Bonne nuit.
Pour un scandale au Mozambique qui a des ramifications dans le monde entier. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir le Brésil, qui est désormais présidé par Jair Bolsonaro. Il est de droite, franchement de droite, populiste, a parfois des comportements qui rappellent ceux de Donald Trump. Alors la première chose que vous avez observée, Miguel Martins, c'est lors de son discours d'investiture, le président brésilien a lancé que son pays tournait la page au socialisme.
Voilà, Philippe, donc une référence très directe aux présidences du Parti des Travailleurs de Lula da Silva, puis de Dilma Rousseff. Je vous propose que nous écoutions donc un extrait de ce discours d'investiture de Jair Bolsonaro. C'était ce mardi à Brasilia.
Me coloco diante de toda a nação nesse dia como dia que o povo começou a se libertar.
En substance, qu'a-t-il dit?
Jair Bolsonaro disait se dresser devant la nation brésilienne en ce 1er janvier, jour où le peuple a commencé à se libérer du socialisme. Le nouveau président du Brésil disait répondre donc de cette volonté de changement. Il prétend que les premiers pas ont d'ores et déjà été accomplis. Il rappelait avoir été élu avec la campagne la moins chère de l'histoire. Bolsonaro martèle qu'il ne faut pas laisser que des idéologies nuisibles divisent les Brésiliens, des idéologies qui détruiraient les valeurs et les traditions nationales ainsi que les famille, le socle de la société.
Alors ça, c'est le discours. Pour ce qui est de la nouvelle politique étrangère du géant brésilien, à quoi faut-il s'attendre?
Voilà, à ce titre, il serait opportun d'entendre justement les toutes premières déclarations du chef de la diplomatie du Brésil. Écoutons donc Ernesto Araújo.
Admiramos aqueles que lutam pela sua pátria e aqueles que se amam como povo. Por isso admiramos, por exemplo, o exemplo de Israel, que nunca deixou de ser uma nação, mesmo quando não tinha.
Que dit-il?
Voilà, il nous dit admirer ceux qui luttent pour leur patrie et ceux qui s'aiment en tant que peuple. Il donne l'exemple d'Israël qui n'a jamais cessé d'être une nation, même lorsqu'il n'y avait pas encore de territoire qui lui soit propre. Et c'est tout le contraire de nations actuelles qui, même avec un territoire, leurs églises, leurs châteaux, ne voudraient plus être une nation. C'est pour cela qu'il prétend que le nouveau gouvernement de Brasilia admire les États-Unis d'Amérique qui dressent leurs drapeaux et chérissent leurs héros. Il dit admirer les pays latino-américains qui ont réussi à s'émanciper de l'esprit du Forum de São Paulo, mouvement de gauche des années 90, ceux qui en Afrique construisent un continent dynamique et libre, ou encore ceux qui luttent contre la tyrannie au Venezuela. C'est pour ça qu'ils apprécient la Nouvelle-Italie, la Hongrie ou la Pologne, c'est-à-dire ceux qui s'affirment, pas ceux qui se renient.
Et puis Miguel, il y a un ministère important, c'est celui de la justice, il est occupé par Sergio Moro. Alors c'est ce juge qui s'était impliqué dans les enquêtes de corruption qui se sont traduites par des dizaines d'hommes politiques arrêtés dans ce pays.
Et pas des moindres, c'est notamment le cas de Lula da Silva, ancien président, leader du Parti des Travailleurs, toujours en détention et de ce fait écarté de la dernière élection présidentielle. Sergio Moro a pour sa part promis de se battre pour la fin de l'impunité, écoutons-le.
Mas a missão prioritária dada pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro foi clara.
Il promettait donc de se battre contre la grande corruption afin de réduire les crimes violents également. Pour lui, tout citoyen brésilien devrait pouvoir vivre sans peur de la violence, sans la hantise d'être victime d'un crime. Voilà pour ses premiers mots à la tête d'un ministère qui pendant longtemps Moro rechignait à accepter.
Alireza Manfazadeh, au mois d'octobre dernier, c'était donc lors de la campagne électorale, certains médias persanophones en dehors de l'Iran, hein, comme Voice of America, avaient évoqué l'ingérence iranienne dans cette élection, notamment par l'intermédiaire du Hezbollah. Il s'appuyait sur des sources brésiliennes. Est-ce qu'on peut croire à cette ingérence?
On ne sait pas avec certitude. En tout cas, si c'est vrai, cela a peut-être eu lieu avec le consentement des opposants à Bolsonaro. C'est une rumeur et on peut essayer de comprendre pourquoi il a été propagé.
Alors il y a l'ampleur des échanges entre les deux pays également, que sont donc le Brésil et l'Iran, c'est bien ça?
Oui, le Brésil est le 7e partenaire commercial de l'Iran et son principal partenaire économique en Amérique du Sud. Ces dernières années, notamment après l'accord nucléaire de 2015, les relations commerciales et économiques entre les deux pays se sont considérablement développées. Or, en plus des déclarations de Bolsonaro pendant sa campagne électorale sur sa volonté de modifier la politique étrangère de son pays, plus particulièrement vis-à-vis de l'Iran, l'inquiétude des autorités iraniennes venait aussi du fait que la presse brésilienne ne cessait de le comparer à Trump, ennemi juré de l'Iran.
L'année dernière, il y a eu 2 milliards de dollars hein, d'échanges entre l'Iran et le Brésil. C'était en 2017, pardon. En 2018, juste avant l'élection, il y a eu autre chose. L'Iran avait négocié.
Voilà, en 2018, quelques mois avant les élections brésiliennes, l'Iran avait négocié avec certains pays, dont le Brésil, l'importation de matières premières pharmaceutiques. Il y a même eu des pourparlers à propos d'un éventuel investissement brésilien dans l'industrie pétrolière iranienne.
Alors est-ce qu'on peut penser que la nouvelle donne change justement les relations économiques entre les deux pays ?
S'il reste fidèle à son discours électoral, je parle de Bolsonaro, il est fort probable qu'il se rallie à la position américaine vis-à-vis de l'Iran. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, a dit récemment que le nouveau président brésilien était un ami du gouvernement américain. Ernesto Araújo, le nouveau ministre des Affaires étrangères, est lui aussi un admirateur du président américain. Et il a tenu des propos hostiles contre l'Iran. Eduardo Bolsonaro, le fils du président, est lui encore hostile à l'Iran. Il avait d'ailleurs dit que l'élection de son père signifierait la fin des relations amicales entre le Brésil et l'Iran.
Alors, qui se passera-t-il dans les prochains mois? Bien évidemment, vous suivez tout cela de très près à la rédaction Personne de RFI. Nina Moine de la rédaction chinoise, l'investiture de Bolsonaro marque-t-elle un changement d'attitude du Brésil envers la Chine cette fois, sachant que lors de la campagne électorale, il avait dénoncé, je le cite, « Les Chinois n'achètent pas au Brésil, ils achètent le Brésil ». Alors, est-ce que la politique du Brésil peut inquiéter Pékin pour les prochaines semaines?
Tout à fait. Au niveau politique, Bolsonaro est allé l'an dernier à Taïwan, dont l'indépendance n'est pas reconnue encore par Pékin. Au niveau économique, même si c'est peu logique que le Brésil tourne le dos à son premier marché à l'exportation, la Chine, qui est aussi sa principale source d'excédent commercial, rien n'est impossible avec le nouveau ministre brésilien des Affaires étrangères. Il se déclare ouvertement admirateur de Trump, il veut le Brésil d'abord, tout comme l'Amérique d'abord. Il avoue vouloir inverser la mondialisation, la repousser vers son point de départ. Le 2 janvier, ce national nationaliste anti-multilatéralisme et anti-mondialisation de 51 ans s'est entretenu avec son homologue américain Mike Pompeo, qui faisait allusion à la Chine dans ses critiques. On l'écoute.
The economic relationships give the companies and citizens of our two countries real opportunity that is fair.
Alors, que dit le secrétaire d'État américain?
Il expliquait que les États-Unis cherchent des relations économiques réciproques, transparentes, justes, pas sur le modèle de certains pays qui vont investir dans un pays pour des raisons politiques et non commerciales. Son commentaire laisse croire qu'il fait référence à l'expansionnisme économique chinois vivement critiqué par le nouveau président brésilien.
Alors Nina, d'où vient cette méfiance à l'égard de la Chine finalement?
Ça vient du fait que depuis 10 ans, la Chine a dépassé les États-Unis et l'Union européenne et elle est devenue le premier partenaire commercial du Brésil. L'exportation annuelle brésilienne vers la Chine a augmenté de presque 40% l'an dernier. Bolsonaro est particulièrement méfiant des achats des entreprises de l'énergie, de l'agriculture et de ressources. Il était même contre la vente de l'entreprise nationale brésilienne Eletrobras en novembre dernier, craignant que celle-ci tombe entre les mains chinoises.
Et puis il y a certaines personnes qui estiment que le Brésil, sous Bolsonaro, rejoindra les États-Unis dans la guerre commerciale engagée contre la Chine. Est-ce que c'est possible?
C'est bien possible. Les États-Unis se montrent déjà favorables à un tel alignement. L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a félicité le Brésil, je cite, « Bolsonaro comprend le danger de l'influence croissante de la Chine dans la région ». Et le département d'État américain s'est aussi exprimé en disant « Enfin, Bolsonaro est là pour assurer la souveraineté brésilienne devant les pratiques commerciales prédatrices chinoises ». Mais le ministère chinois des Affaires étrangères estime qu'en tant que pays émergent avec un grand potentiel du marché, le Brésil connaît parfaitement où se trouvent ses intérêts, nul besoin que les autres lui montrent. Le consul général de la Chine à Rio estime quant à lui que le Brésil n'est pas obligé de s'aligner avec les États-Unis.
En quelques mots, qu'est-ce qu'il dit?
Le consul juge que le Brésil n'aura pas de choix à part travailler intimement avec les États-Unis, mais cela ne veut pas dire qu'il est capable de s'éloigner de la Chine. Ni la Chine ni le Brésil ne veulent subir des conséquences d'une guerre commerciale similaire à celle entre Pékin et Washington.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette nouvelle donne au Brésil. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Et à présent, revenons avec la rédaction Personne sur l'annonce surprise faite par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Cette décision a suscité beaucoup de réactions, également de l'émotion, dans la mesure où il y a une sorte de trahison des Kurdes qui ont combattu contre les djihadistes. Intéressons-nous à la position des autorités iraniennes, Alireza Manafazadeh. Quelle a été justement cette réaction ?
En Iran, on a assisté à deux types de réactions, dont l'une a été plutôt diplomatique et l'autre un peu démesurée, qui était celle des médias. La réaction officielle exprimée par Bahram Ghassemi, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, s'inscrivait dans la ligne habituelle de la République islamique. Écoutons ce qu'il dit. Il dit que l'arrivée des troupes américaines dans la région a été dès le début une erreur et que leur présence constituait une source de tension. Ce problème a été une des causes principales de l'instabilité et de l'insécurité dans la région. Et il ajoute, quand on étudie de près l'histoire de l'évolution de la région pendant les décennies récentes, on voit bien que la présence d'un élément étranger dans cette région sensible et importante n'a eu d'autres conséquences que l'amplification des conflits.
Alireza, vous avez lu la presse officielle là-dessus. Qu'est-ce qu'écrivent les journaux pro-gouvernementaux en Iran ?
D'abord, Kayhan, quotidien le plus conservateur, a écrit qu'une télévision en Israël, sans dire laquelle, a dit que si Trump a ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie, c'est parce qu'il avait peur des opérations de représailles iraniennes et que l'Amérique soit davantage humiliée. Si le président des États-Unis a décidé ainsi, c'est parce que il s'inquiétait de la possibilité de représailles par les gardiens de la révolution.
Autre lecture, autre commentaire.
Je me bornerai, si vous voulez, à Ma Chère News, un autre média conservateur. Dans un long article, il a écrit que l'arrivée des troupes américaines en Syrie s'est effectuée dans le but de contrebalancer la position dominante de l'Iran dans la région et de soutenir Israël. Pour Trump, le retrait des troupes américaines de Syrie est une manœuvre électorale. S'il veut vraiment, écrit ce journal, un changement stratégique de la politique étrangère des États-Unis, il doit cesser toute intervention dans les affaires des pays de l'Asie du Sud-Ouest.
Alireza Manafazadeh de la rédaction Personne de Radio France Internationale. Ce 1er janvier 2019 marquait le 40e anniversaire du message de la Chine aux compatriotes de Taïwan. Cela représentait à l'époque un premier dégel des relations entre les deux Chines, communistes et nationalistes, et cela avait abouti à ce qu'on appelle le consensus de 1992. Mais cette année, l'ambiance s'est plutôt tendue entre les deux pays. En effet, Nina Wang, la présidente taïwanaise, nie ce fameux consensus de 92 considéré par la Chine continentale comme la base de toutes les discussions possibles. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi ce consensus est-il si important?
En fait, ce consensus de 92 est aussi appelé le consensus d'une seule Chine, qui implique que la Chine continentale et Taïwan appartiennent à une seule Chine. Mais ce message est tellement ambigu que les deux côtés peuvent en avoir d'interprétations différentes et y trouver son compte. Le ton change depuis l'arrivée au pouvoir de la présidente taïwanaise actuelle, qui souligne que Taïwan peut reconnaître la discussion de 92, mais pas ce consensus. Car l'expression « la seule Chine » n'avait pas été clarifiée à l'époque, ce qui invalide le reste. On écoute son discours de cette semaine.
« Taïwan 前途 在于国家统一, 祖国必须统一. »
Qu'est-ce qui est dit?
En fait, il dit que la Chine populaire doit impérativement accepter la réelle existence de Taïwan en tant que pays et la légitimité de sa démocratie. Elle refuse d'accepter le consensus de 92 car elle y voit le système un pays, deux systèmes politiques théorisés par Pékin. Or, pour Taïwan, c'est hors de question d'être intégré dans la Chine populaire. Quelles que soient les garanties annoncées, similaires énoncées lors des rétrocessions de Hong Kong en 97.
Alors, ces garanties, quelles garanties sont proposées par la Chine populaire à Taïwan en échange de son intégration dans celle-ci?
Une prise de considération de la situation politique et sociétale de Taïwan, une protection de la liberté de son peuple, etc. On écoute Xi Jinping, le président chinois.
Que dit-il?
Il dit que les promesses générales sur la liberté de croyance, la protection des biens, le respect du système politique taïwanais en cas de l'unification, mais les tentatives d'ingérence du Parti communiste chinois à Hong Kong nous laissent pessimistes et ne laissent pas espérer un respect rigoureux de ces promesses. Ensuite, il a promis que les Chinois attaquent bas les Chinois et que la Chine populaire ne renonce pas au recours à la force en cas besoin, ce qui ressemble à être une menace envers les Taïwanais qui refuseraient de rejoindre la République populaire.
Nina Luang, merci, de la rédaction chinoise de RFI. Au Mozambique, en Afrique de l'Est, mais également à l'étranger, une énorme affaire défraye la chronique actuellement. Il y a question de mandats d'arrêt internationaux délivrés par les États-Unis. Alors faisons le point, Miguel Martins. Plusieurs personnalités de différentes nationalités sont donc visées.
À commencer en effet par Manuel Chang, ancien ministre mozambicain des Finances, député actuellement du Frelimo, le parti au pouvoir. Il y a une semaine, il a été arrêté en Afrique du Sud, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Dubaï. Les Américains souhaitent obtenir son extradition. Et c'est dans le cadre d'une fraude impliquant des prêts à des entreprises publiques mozambicaines sans connaissance du Parlement. On parle là de plus de 2 milliards de dollars.
2 milliards de dollars. Et il n'est pas le seul à être dans le collimateur de la justice américaine.
Voilà, en tout, le parquet de New York a inculpé 5 personnes. Il s'agit de 3 banquiers du Crédit Suisse basés à Londres. Ils auraient fait l'interface pour garantir ces prêts. Ils ont fini par payer une caution, sont donc en liberté, mais font toujours l'objet d'une demande américaine d'extradition. Le cinquième accusé est Jean Boustany, un facilitateur franco-libanais qui est censé être impliqué dans cette affaire. Il a été arrêté ce jeudi à l'aéroport JF Kennedy.
Alors ça, ce sont les acteurs de cette affaire. Venons-en maintenant à ces affaires justement, à ces magouilles précisément.
Voilà, 3 entreprises publiques dans les domaines de la sécurité maritime et de la pêche du thon notamment, auraient donc contracté des dettes importantes sans aval préalable des autorités compétentes entre 2013 et 2014. Un rapport d'audit mené par le cabinet Kroll, pointait déjà 500 millions de dollars qui n'auraient pas été justifiés dans cette affaire, ou encore des surfacturations d'environ 700 millions de dollars. À l'époque, aussi bien la Banque mondiale que le Fonds monétaire international avaient gelé toute coopération avec le Mozambique à la suite de cette affaire.
Alors, qu'encourent, que risquent tous ces gens inculpés par les Américains?
Déjà, Manuel Chang, l'ancien ministre mozambicain des Finances, il risque notamment une peine cumulée de 45 ans de prison. On sait déjà qu'il va s'opposer à son extradition vers les États-Unis. Le FBI parle de fraude électronique, fraude de biens immobiliers et blanchiment d'argent.
Et comment réagit-on au Mozambique par rapport à cet énorme scandale international?
Pour l'heure, les nouvelles autorités font profil bas et elles n'ont toujours pas émis de commentaires sur le sujet. Évidemment, l'opposition est bien plus bavarde. La RENAMO, l'ancienne guérilla, dénonce l'inaction du parquet mozambicain. Une situation qui serait la honte du pays, dit le principal parti de l'opposition. Et c'est alors que le MDM, deuxième parti de l'opposition, dénonce le silence des autorités dans un cas qui prouverait là aussi que le pays aurait une justice incompétente et inopérante.
Miguel Martin, c'est bien sûr votre rédaction, la rédaction lusophone suit tout cela de très près. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, ce sera l'essentiel de l'actualité sur Radio France Internationale.